Bonsoir. 13 500 manifestants contre l'islamophobie à Paris. Le rassemblement qui suscitait la polémique s'est dispersé dans le calme. Place de la Nation, mouvement anti-républicain pour les uns, porteur de tolérance pour les autres. Dans le cortège notamment Jean-Luc Mélenchon qui dénonce la stigmatisation des musulmans. Un pari risqué pour Pedro Sanchez en Espagne. Le Premier ministre qui a convoqué ce dimanche de nouvelles législatives espère une majorité claire pour gouverner, mais l'extrême droite pourrait aussi largement progresser. La sortie du glyphosate coûtera cher aux agriculteurs. Il faut leur dire très vite qu'ils obtiendront un délai. Des députés demandent au gouvernement de clarifier la situation. Réponse sur France Inter de la ministre Elisabeth Borne. La sortie du glyphosate reste programmée pour l'essentiel fin 2020 et pour tout le monde 2 ans plus tard. Les Françaises au sommet en tennis. Elles remportent la Fed Cup face aux Australiennes 3-2. Notamment grâce à Kristina Mladenovic en grande forme. En voile, ce ne sont pas les favoris qui ont gagné. Charlie Dalin et Yann Eliès ont remporté l'année dernière la 14e Transat Jacques Vabre dans la catégorie Rennes des IMOCA. En Ligue 1 de football, 3-1 pour Rennes face à Amiens cet après-midi. Victoire de Saint-Etienne à Nantes, 3-2 Saint-Etienne qui prend place sur le podium. Ce soir, l'affiche du week-end OM-OL. Le journal des sports dans un instant, c'est avec Jérôme Val qui nous parlera aussi à sa façon de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin à travers ses records toujours détenus par des athlètes de RDA et qui ne seront jamais battus. Devinez pourquoi. Enfin, le temps, du gris et de la pluie quasiment pour tout le monde demain.
France Inter.
Vivre ensemble, c'est urgent et c'est en partant de ce principe qu'ils sont venus nombreux, 13 500 selon le comptage du cabinet indépendant Occurrence, venus manifester à Paris contre l'islamophobie, la stigmatisation grandissante de leur point de vue des musulmans de France. De nombreux responsables politiques, après avoir soutenu l'appel, se sont finalement désistés en jugeant parfois ambiguës les prises de position des organisateurs. D'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, ont maintenu leur participation en appelant à se concentrer sur la cause elle-même et pas forcément sur ceux qui la défendent. Mathilde Deimy, c'est donc une manifestation finalement très consensuelle qui vient de se disperser dans le calme, place de la Nation.
Oui, avec des drapeaux tricolores, des chants, une ambiance festive. Mais la colère est bien là, comme celle de Mila qui vient de Lille avec sa fille.
Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se cache derrière la laïcité pour bafouer nos droits, nos libertés. Est-ce que vous pensez qu'on est libre en France quand on sait que si on a un foulard sur la tête, on ne peut pas choisir le métier que l'on souhaite? On ne peut pas accompagner nos enfants à l'école. On risque à n'importe quel moment d'être montré du doigt. La laïcité, elle prône justement l'égalité et la possibilité de pratiquer.
Beaucoup manifestent pour la première fois, disent ne plus oser allumer la télévision devant leur enfant face au dérapage de certains plateaux. Il y a aussi beaucoup de défiance envers les hommes politiques et le gouvernement. Il faut que ça change vite, dit Jalel.
C'est quelque chose qui se fait dans les deux sens. Je pense qu'il faut une écoute de la part des partis politiques et je pense aussi qu'il faut aussi l'exprimer. Aujourd'hui, il est là le message, dans l'expression.
Les organisateurs font siffler Éric Zemmour, mais aussi ceux qui se sont désolidarisés au dernier moment de leur appel. Youssef Brakni, du comité Justice et Vérité pour Adama, l'un des initiateurs.
C'est un tournant historique. Il y a la LDH qui est là, il y a la CGT, la Solidaire qui est là. Il y a des athées, il y a des juifs, il y a de tout en fait dans cette marche. On l'a prouvé aujourd'hui, c'est la gauche qui aurait dû organiser ça. Elle ne l'a pas fait et c'est nous qui avons pris nos responsabilités.
À l'arrivée, place de la Nation, les orateurs se succèdent, entament une Marseillaise et donnent une tonalité plus politique à la mobilisation. Ils parlent de mouvements historiques dans la lignée de la marche de 1983.
Mathilde Deimy, place de la Nation à Paris avec Jérémy Thuil. D'autres rassemblements ont été beaucoup plus modestes à travers le pays, Marseille et Toulouse notamment, avec quelques centaines de personnes. Sortir du glyphosate, pour qui et comment? Dans un rapport parlementaire qui sera rendu public mercredi, les députés appellent le gouvernement à clarifier son message en direction des agriculteurs, en précisant au plus vite les filières qui devront avoir cessé d'utiliser l'herbicide fin 2020 et celles qui pourront bénéficier d'un délai, car la sortie du glyphosate leur coûtera cher, explique encore les députés chargés d'évaluer la situation et dont l'AFP a publié les premières conclusions. Réponse d'Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, ce midi sur France Inter. Le gouvernement, dit-elle, est résolu à tenir ses objectifs.
C'est pas en claquant dans les doigts qu'on décide comme ça qu'on arrête le glyphosate. Il faut accompagner les transformations, proposer des substitutions, notamment du désherbage mécanique. Donc on reste évidemment résolu à sortir du glyphosate. Je pense qu'on a des premières filières qui pourront le faire, sans doute plus rapidement que d'autres.
Mais quelles cultures bénéficieront d'une dérogation ?
c'est les études qui sont en cours à l'INRA et à l'ANSES, donc je ne vais pas vous répondre sur les cultures qui pourraient bénéficier d'une dérogation. Ce que je peux vous dire, c'est que la viticulture, le président de la République l'avait dit, on souhaite avoir la première viticulture zéro glyphosate, et je pense qu'ils sont vraiment en train d'agir pour que ce soit le cas. Quand on a un modèle agricole qui a été poussé pendant des années à utiliser des pesticides, du glyphosate, c'est pas d'un claquement de doigts que vous changez de modèle.
Enfin, c'est l'État qui accompagner. S'est engagé, Elisabeth
Borne. Oui, mais je vous confirme que l'objectif, c'est bien de sortir de l'essentiel des usages au 1er janvier 2021 et de tous les usages au 1er janvier 2023.
Elisabeth Borne avec Ali Badou sur France Inter. La ministre de la Transition écologique est aussi revenue sur le dossier des EPR en appelant EDF à réfléchir à un autre scénario. Au cas où, dit-elle, le scénario 100% énergie renouvelable serait retenu. Dans un document interne révélé par Le Monde, EDF évalue à 7,5 milliards d'euros au moins le coût unitaire de construction des futurs EPR, soit plus du double de ce qui était prévu au départ pour le réacteur de Flamanville, dont la facture, on le sait, dépasse aujourd'hui les 12 milliards. L'objectif, explique Elisabeth Borne, c'est de réduire la part du nucléaire à 50% d'ici 2035 et au-delà, tous les scénarios devront être mis sur la table pour assurer aux Français et aux entreprises françaises une électricité abordable. Une autre décision du gouvernement qui, celle-là, n'a pas été digérée, c'est à Nantes. Décision pas digérée par les riverains de l'aéroport Nantes-Atlantique. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes avait été pour eux une mauvaise nouvelle, mais la décision fin octobre d'allonger la piste de décollage de l'aéroport existant, c'est encore pire. Et ils sont revenus le dire sur place, haut et fort, à Nantes, Paul Sertilange.
L'histoire n'est pas terminée, c'est ce qu'ils veulent faire savoir.
On met un pistolet sur la table, je vais tout faire en sorte de le retirer de ma tempe.
Et Joël Sauvaget, président du collectif des citoyens exposés au trafic aérien, est le porte-parole de leur colère.
Monsieur Emmanuel Macron, monsieur Édouard Philippe, vous devez penser qu'il s'agit aujourd'hui qu'une simple formalité, que ce dossier est clos, mais ce n'est que le début. Vous voulez passer en force? Les citoyens vous attendent.
On essaie de se battre, on essaie de faire respecter la démocratie, parce qu'on considère tous qu'il y a eu un déni de démocratie.
Désormais, presque deux ans après l'abandon du transfert à Notre-Dame-des-Landes, les manifestants n'hésitent plus à totalement bloquer la circulation devant l'aéroport.
Je serais mieux ailleurs, mais je suis obligé de rester dans ma voiture, puis j'attends. De toute façon, ça sert à rien de s'énerver, hein, donc on va attendre que ça passe, et puis voilà, hein, de toute façon, on va pas se taper dessus. Hein.
Non, pas de bagarre, même si à certains moments, ça a chauffé.
Inadmissible. Ah oui, mais bon, nous on n'y est pour rien. Ils ont qu'à aller à la préfecture et puis foutre le bordel là-bas. Pourquoi ils emmerdent les gens?
Et pour la photo, sur la façade du hall 2 en hauteur, les manifestants ont installé une grande banderole « Aéroport de la honte ».
En bref, il fallait s'y attendre. Dans la nouvelle affaire Polanski, les accusations portées contre le cinéaste par Valentine Monnier sont accueillies par un silence gêné dans les milieux du cinéma, à commencer par l'équipe du film J'accuse, qui doit sortir sur les écrans mercredi. Sa tête d'affiche, Jean Dujardin, qui devait être ce soir l'invité du 20h de TF1, a finalement préféré s'abstenir pour ne pas avoir à commenter le témoignage publié hier matin dans Le Parisien. Le conseil d'administration de l'ARP, l'association des auteurs, réalisateurs et producteurs, qui n'a fait aucun commentaire, doit se réunir dans la semaine pour statuer sur le cas Polanski. De son côté, l'avocat du cinéaste assure au JDD qu'il réfléchit aux suites judiciaires qu'il pourrait apporter à cette publication.
France Inter, Yves Decamp.
Quelle majorité pour l'Espagne? Un peu plus de six mois après sa victoire aux législatives, le Premier ministre Pedro Sanchez a reconvoqué les électeurs ce dimanche en leur demandant de lui donner une majorité claire et nette. C'est pas gagné si l'on en croit les sondages, c'est peut-être l'extrême droite qui pourrait gagner encore un peu de terrain et devenir la troisième force du pays. Le parti Vox pourrait profiter notamment de la crise catalane et de l'exaspération que suscitent les indépendantistes à travers le pays. Isabelle Labéry, vous avez suivi cette journée de vote en Espagne, où les résultats seront connus dans la soirée, mais on sait déjà que la participation est en baisse.
Oui, et ce n'est pas une surprise. Les Espagnols seront moins nombreux à se déplacer aujourd'hui. Les chiffres communiqués à 18h montrent un recul de 4 points par rapport au mois d'avril. Scrutin pour lequel la participation était, il est vrai, particulièrement forte, à plus de 76%. Mais les électeurs sont lassés par ces rendez-vous à répétition, de plus en plus critiques face à des partis incapables de s'entendre pour sortir de la paralysie. Beaucoup disaient aujourd'hui venir voter sans conviction et sans espoir. une baisse de participation également sensible en Catalogne, ce qui veut dire que la pression indépendantiste particulièrement forte ces dernières semaines n'a pas mobilisé. Cette abstention, traditionnellement plus marquée à gauche, risque d'abord de favoriser la progression du jeune parti d'extrême droite, Vox, vous en parliez, qui ambitionne de devenir la troisième force politique du pays. Mais elle va aussi pénaliser l'actuel chef de gouvernement, puisque Pedro Sanchez, le socialiste, est toujours donné en tête, mais avec moins de voix que lors des dernières élections, ce qui serait un revers considérable et surtout une configuration qui rendra le nouveau Parlement encore plus ingouvernable que le précédent.
Isabelle Labéry en Espagne avec Laurent Maquetti. En Bolivie, la contestation devenait trop forte. Le président Morales a finalement cédé en acceptant la convocation de nouvelles élections, sans préciser s'il serait à nouveau candidat. Juste avant son annonce, l'Organisation des États américains avait demandé l'annulation du scrutin présidentiel du 20 octobre dernier, entaché selon elle de fraude. Evo Morales, au pouvoir depuis 2006, avait été réélu pour un quatrième mandat avec plus de 10 points d'avance sur son adversaire centriste. En Iran, un cadeau du gouvernement au peuple. C'est de cette façon un peu exagérée peut-être que le président Rouhani, qui n'y est pour rien en vérité, vient d'annoncer la découverte d'un gisement pétrolier gigantesque, un gisement qui pourrait accroître d'un tiers les réserves nationales et que le président iranien présente comme une bonne nouvelle pour le pays, confronté aux sanctions économiques américaines, si ce n'est que les dites sanctions empêchent l'Iran d'exporter son pétrole librement. En Russie, c'est un fait divers sordide qui défraie la chronique à Saint-Pétersbourg. Il met en scène un éminent professeur d'histoire, Oleg Sokolov, spécialiste mondial de l'époque napoléonienne, auquel la France a d'ailleurs remis la Légion d'honneur. Sokolov, qui vient d'être arrêté alors qu'il était tombé dans une rivière complètement ivre. Il avait sur lui les deux bras de sa jeune compagne qu'il venait de tuer et de démembrer. L'intéressé dit avoir eu l'intention de mettre fin à ses jours déguisé en Napoléon. Claude Bruyot à Moscou.
Au lendemain de l'arrestation d'Oleg Sokolov, c'est finalement la double personnalité de cette sommité de l'histoire napoléonienne qui finit par ressurgir. Certains de ses anciens élèves commencent d'ailleurs à évoquer des comportements anormaux au-delà de cette soif de connaissance et de transmission sur l'Empire et ses conquêtes. À chaque reconstitution, par exemple, l'érudit Sokolov se plaisait à porter les tenues d'époque de l'empereur, faisant de sa future victime et jeune compagne de 40 ans sa cadette, sa Joséphine, prénom dont il l'affublait régulièrement en public. Il y a une dizaine d'années déjà, une jeune étudiante proche de l'éminent professeur avait déclaré avoir été retenue de force par son mentor alors qu'elle lui annonçait sa volonté de le quitter. C'est semble-t-il pour les mêmes raisons qu'Oleg Sokolov, sous l'emprise de l'alcool, est cette fois passé à l'acte. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Au Bangladesh, déjà 20 morts et le bilan n'est pas définitif. Après le passage du cyclone Bulbul, 2 millions de personnes ont passé la nuit sous des abris. De nombreuses habitations, fussent-elles des habitations de fortune, ont été détruites. Les parties les plus basses du pays, parfois plus basses que le niveau de la mer, ont été inondées. Dans l'Inde voisine, ce sont 120 000 personnes qui ont été évacuées. En France, la disparition inquiétante d'un jeune homme de 17 ans à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Originaire de Sevran, il n'a plus donné signe de vie depuis 3 jours depuis une bagarre intervenue jeudi soir sur les bords du canal de l'Ourcq. Sur des images de l'agression diffusée sur Snapchat, on le voit allongé au sol, le visage en sang. 3 mineurs ont été placés en garde à vue et une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Et puis des paquets de cocaïne sur les plages. C'est la découverte stupéfiante qu'ont fait ces derniers jours plusieurs promeneurs du bassin d'Arcachon, des Landes et de Charente-Maritime. En fait, sur toute la façade atlantique. C'est d'ailleurs le parquet de Rennes qui a ouvert une enquête. 36 kilos ont également été récupérés en mer par un hélicoptère des douanes. Les particuliers qui découvriraient de tels colis sur la plage sont évidemment invités à prévenir immédiatement le 17, sachant qu'avoir en sa possession ce type de produit est passible de 10 ans de prison, mais surtout, précise le parquet, la cocaïne présentant un degré de pureté important, elle peut être particulièrement dangereuse. Marie-Laurence Dahl nous appelle de La Rochelle.
C'est un promeneur qui a donné l'alerte en début de semaine dernière. Il venait de trouver un paquet sur une plage de la Tremblade près de Royan qui contenait 6 kilos de cocaïne, selon la brigade de gendarmerie de Rochefort, qui refuse de donner d'autres précisions, notamment sur le lieu de la découverte. Le chef d'escadron Burette craint qu'il y ait une ruée sur les plages en ce week-end du 11 novembre, comme ça avait été le cas en Gironde il y a quelques années, mais il souligne qu'un seul paquet est arrivé sur la plage de la Tremblade. La seule chose à faire en cas de découverte, dit-il, c'est de prévenir le 17. Les mairies ont été alertées. Certaines, comme celle de Saint-Trojan-les-Bains sur l'île d'Oléron, organisent des patrouilles régulières. Mais on ne peut pas patrouiller sur tout le littoral, souligne le chef d'escadron Burette. Et il ajoute que transporter ce type de produit est un délit passible de 10 ans de prison.
Hasard de l'actualité, 680 kilos de cocaïne ont été saisis dans le port du Havre cette semaine. Trois suspects sont toujours en garde à vue. Sur les routes, en plein week-end férié, Maureen Suignard, un ralentissement ce soir sur l'A47 dans la Loire.
Oui, une quarantaine de minutes de bouchons environ dans le département donc de la Loire au sud de Lyon. À partir de Rives-de-Gières, cela fait suite à un accident corporel entre deux voitures à la Grand-Croix. La voie de gauche est neutralisée, ce qui donc vous ralentit. Autre accident corporel ce soir, cette fois dans Lyon sur l'A6 au nord d'Auxerre à hauteur d'Apoigny. Accrochage qui se trouve dans le sens est-ouest vers Paris. En Ile-de-France, on a ce carambolage à signaler sur l'A86 extérieure à Villeneuve-la-Garenne. Trois voitures sont impliquées et sont sur la voie de droite. Et puis on a aussi des ralentissements à signaler pour contourner Marseille. Vous mettez une bonne cinquantaine de minutes pour aller de l'Estac jusqu'à la Moularde via l'A50.
Maureen Suignard, OPC Mobilité de Radio France. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
La séquence de fortes pluies d'orage qui s'abat sur l'est de la Corse ce dimanche en soirée va continuer demain une grande partie de la journée tout en s'estompant progressivement au cours d'après-midi. En marge des Alpes à la Provence, les pluies seront parfois soutenues avec de la neige à partir de 1400 mètres. À l'autre extrémité du pays, une zone de pluie va aborder très tôt la façade atlantique puis rejoindre les régions de l'est en toute fin de journée, provoquant des chutes de neige à partir de 1000 mètres sur le massif central, 1400 sur les Pyrénées. Avant l'arrivée de ce temps maussade sur la moitié est, la grisaille sera particulièrement tenace. Et à l'arrière, sur le quart nord-ouest, en cours d'après-midi, installation d'un ciel d'averse et d'orage poussé par un vent de nord-ouest à 90 km à l'heure sur les côtes. En fin de nuit, il faudra se méfier des gelées sous abri entre 0 et moins 2 degrés, notamment vers Nancy, Lyon, Strasbourg, Dijon et Besançon. L'après-midi, les maximales vont souvent gagner 2 degrés par rapport à aujourd'hui.
19h17, on passe au sport. Avec vous Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
C'est l'image de ce dimanche pour le sport français. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic en larmes. La France a remporté la Fed Cup de tennis.
Les deux joueuses enlacées à la fin d'un double décisif à Perth en Australie. Image improbable il y a un an à peine alors que les deux Françaises étaient brouillées. Mais elles viennent de vivre un week-end incroyable aux antipodes. Victoire 3-2 de la France contre l'Australie avec un sans faute de Mladenovic qui a remporté ses trois matchs, dont celui de ce matin contre la numéro 1 mondiale et le double qui a suivi. Jean-Pierre Blimaud, vous avez vécu ce succès aux côtés des Françaises, forcément ivre de bonheur.
Et oui Jérôme, cette équipe de France de Fed Cup, emmenée par une Kristina Mladenovic des grands jours, a vécu un week-end qui restera dans les annales pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette finale se déroulait très loin de la France, ensuite parce que le clan tricolore est passé par tous les états. Kristina Mladenovic, expéditive le samedi puis renversante le dimanche. Caroline Garcia, KO debout, battue 6-0, 6-0 le samedi. Et le lendemain qui tombe dans les bras de Kristina Mladenovic au terme d'un double décisif gagné. Et puis cette revanche sur la finale perdue il y a 3 ans à Strasbourg avec les deux mêmes joueuses dans un double décisif perdu face aux Tchèques. Enfin, il y a la cohésion d'un groupe réuni par Julien Beneteau qui étrennait sa première année de capitaine.
Aujourd'hui, on était remontés, motivés comme jamais et lors de la présentation des équipes, pour moi, c'était la plus belle Marseillaise de ma vie. Les filles, elles avaient les larmes aux yeux et moi, j'avais les larmes aux yeux aussi pendant la Marseillaise et au fond d'elles, elles avaient ce qu'il fallait pour répondre sur le terrain.
Au bout du monde, mais devant près de 150 supporters français déchaînés, c'est la troisième victoire française dans cette épreuve après celle de 97 et 2003. Elle n'est pas sans rappeler un autre exploit, celui des joueurs français de Coupe Davis en 2001, ici même en Australie, alors qu'ils avaient en face le numéro 1 mondial de l'époque, Leighton Hewitt.
Un troisième succès donc dans cette Fed Cup, mais celui-là est le plus symbolique. Pour la dernière fois, cette compétition se jouait sur ce format. Comme pour la Coupe Davis chez les hommes, la Fed Cup se disputera la saison prochaine sur une semaine, en un même lieu. La formule change, mais ça restera un défi passionnant pour Kristina Mladenovic.
Pour moi, il n'y a aucun doute. C'est l'équipe de France et c'est la Coupe du Monde. Alors certes, ça rajoute un peu un piment. C'est différent de voyager, d'aller loin. Mais au final, ce qui est important, c'est l'équipe de France. C'est c'est une Coupe du Monde. Et peu importe le format, le lieu, c'est ça les vraies valeurs. Et pour moi, ça changera jamais, quoi.
Et toujours en tennis, cette fois à Londres, les 8 meilleurs joueurs du monde se retrouvent pour le Masters, qui décidera notamment de la place de numéro 1 mondial à la fin de l'année. 8 joueurs, tous européens, du jamais vu en 50 ans de Masters. Et ça a démarré tout à l'heure avec la victoire de Novak Djokovic en 2-7 sur Matteo Berrettini.
La Ligue 1 de football suite aujourd'hui de la 13e journée avec ce face-à-face tout à l'heure entre les Canaries et les Verts. Et qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts.
Et ça vient de se terminer. Victoire de Saint-Etienne. 3-2 à Nantes. Très belle opération Charles Guyard pour l'équipe dirigée par Claude Puel.
Après leur déplacement en Ukraine jeudi en Europa League où ils s'étaient écroulés en fin de match pour concéder le nul 2-2 face à la modeste équipe d'Alexandria, les Stéphanois ont sans doute montré leur visage le plus séduisant en Ligue 1 ce dimanche à Nantes. Par deux fois, les hommes de Claude Puel ont réussi à recoller au score en première période. 2-2 à l'entracte, la Beaujoire n'avait plus assisté à pareil festival offensif en une mi-temps depuis le 5 décembre dernier et la réception de l'OM. Mais après avoir vibré, les 34 000 spectateurs ont déchanté au retour des vestiaires lorsque Denis Bouanga s'est offert un doublé à l'heure de jeu dans une défense désorganisée. Une réalisation qui permet à Claude Puel non seulement de demeurer invaincu sur le banc des Verts depuis son arrivée début octobre, mais à son équipe d'effectuer un joli bond au classement, passant de la 9e place au podium, en attendant bien sûr le match clôture de cette 13e journée. Charles Guyard à Nantes pour France Inter.
Rennes de son côté se rassure un peu en dominant Amiens 3-1. Montpellier domine Toulouse 3-0. Et puis ce soir, ce sera donc le clou du week-end avec l'opposition des Olympiques. Marseille contre Lyon, match décisif pour les deux équipes qui veulent recoller au podium après un début de saison délicat.
Alors cela dit, ces duels entre les deux métropoles sont souvent marqués par l'ambiance dans les tribunes, hein, Jérôme, ambiance électrique quand d'anciens Marseillais qui jouent à Lyon reviennent au Vélodrome.
Et ce sera le cas ce soir pour Rudy Garcia, ex-entraîneur de l'OM aujourd'hui sur le banc lyonnais. Dans le passé, il y a aussi eu le cas de Mathieu Valbuena, joueur de Marseille puis de Lyon. Retour marqué par le mauvais goût de certains supporters, Bruno Blanzin.
Un accueil choquant pour certains avec cette poupée à son effigie sur une potence. Mathieu Valbuena bombardé de projectiles quand il frappe les corners. Le match est arrêté à deux reprises. On n'oublie pas non plus que le gardien de l'OL, Anthony Lopez, provocateur et persona non grata au Vélodrome. Notamment après les échauffourées de la saison passée, la gifle qu'il a donnée à un intendant marseillais à la fin du match. Les Olympicos, c'est aussi ces clashs, souvent 2.0 entre Jean-Michel Aulas, le boss lyonnais, et les présidents de l'OM. Pape Diouf, puis Vincent Labrune, traité de guignol.
Ce sont des propos irresponsables. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football.
Ou avec Jacques-Henri Hérault qui lâche il y a un an et demi, je rendrai coup pour coup à Jean-Michel Aulas. Aulas, ennemi juré des fans de l'OM, qui se régale en 2017 de jouer la finale de Ligue Europa à Lyon dans le stade de l'OM. Il se passe toujours des choses dans les Marseille-Lyon. Et ce soir, c'est le retour de l'ancien entraîneur marseillais Rudy Garcia qui pimente cette rencontre, devenue un match à part dans l'histoire de l'OM.
Ah, c'est chaud, c'est Marseille et ouais. Ce sera à 21h.
En rugby, c'était le derby de la peur pour les clubs franciliens du top 14.
Ultime rencontre de cette 9e journée entre le Stade français et le Racing 92, les deux derniers au classement au moment du coup d'envoi. Et comme souvent, Paris a perdu une nouvelle fois sur sa pelouse face à son voisin 25-9. Fanny Le Chevestrier était au stade Jean Bouin pour France Inter.
Malgré des supporters pour une fois présents en force, malgré un nouveau directeur général, un ancien du club, Thomas Lombard, et donc les retours de Coupe du Monde, notamment celui de Gaël Ficou, et bien c'est logiquement que Paris s'est ce soir une fois de plus incliné 25-9. Le Stade français, sans fond de jeu, qui ne s'en remet qu'à ses individualités, s'enlise dangereusement à la dernière place du top 14 et le champion de France 2015 voit le spectre d'une relégation l'entourer de plus en plus sûrement. Et la question qui agite le Stade Jean Bouin ce soir tourne une fois de plus autour de l'entraîneur sud-africain Heineke Meyer, conforté avec force hier par le président du club. Jusqu'à quand va-t-il pouvoir rester en place alors que les dissensions dans le vestiaire s'affichent de plus en plus au grand jour? À Jean Bouin, Fanny Le Chevestrier, France Inter.
Et la devise de Paris, hein, battue par les flots mais ne sombre pas, ne semble pas s'appliquer à son club
de rugby. Vous le dites pour latin.
Et à l'inverse, hein, Lyon a conforté son statut de leader après un large succès sur La Rochelle, 45-17.
La bataille a été belle sur l'Atlantique pour les concurrents de la Transat Jacques Vabre. On connaît désormais le podium chez les IMOCA.
Les bateaux du Vendée Globe, catégorie Rennes, dominés par le duo Charlie Dalin et Yann Elias sur Apivia. Ils sont arrivés la nuit dernière dans la douceur de Salvador de Bahia au Brésil, où vous trouvez Fabrice Rigobert. Bonsoir.
Bonsoir Jérôme.
Et on entend les petits tambours brésiliens derrière vous. Alors deux autres bateaux ont franchi la ligne en quelques minutes d'intervalle. PRB avec Kevin Escoffier, Nicolas Lundven et Charal de Jérémy Beyou et Christopher Pratt.
Oui, de la régate olympique à l'image de celle livrée l'année passée entre Francis Joyon et François Gabart sur le Rhum, à ceci près qu'il ne s'agissait pas aujourd'hui d'une lutte pour la victoire, mais à l'inverse de l'an dernier, celui qui venait de derrière, eh bien, est resté derrière le grand battu du poteau noir, scotché à la mer dans une zone sans vent trois jours durant, a cravaché pour tenter de chipper cette deuxième place au duo Kevin Escoffier Nicolas Lundven à l'entrée de cette baie de Salvador sous un magnifique soleil, sans résultat, malgré leur bateau plus récent, plus rapide avec ce supplément de rage. Jérémy Beyou et Christopher Pratt ont échoué pour 6 minutes 18, un rien. Mais c'est surtout la malchance du poteau noir qui a ruiné la course de l'ultra favori Jérémy Beyou.
On a coupé les classements quand on était dans le poteau noir parce que c'était vraiment trop dur.
Ça a été 3 jours insupportables. On a remis petit à petit les classements en sortant et quand on a vu que le bateau accélérait. Puis effectivement, on a vu qu'il y avait peut-être une troisième place qui était jouable. La deuxième, on n'y pensait même pas parce que PRB était quand même vraiment loin. Sur la fin de course, content d'être sur le podium, c'est pas volé. Voilà, on valait mieux qu'une cinquième ou sixième.
Jérémy Beyou et son coéquipier ont affiché des sourires de soulagement d'en avoir terminé, plus que de satisfaction, confirme Christopher Pratt, tant l'expérience vécue au-dessus de l'équateur a été traumatisante.
Quand on a vu que le podium était accessible, ça nous a remis du baume au cœur, mais clairement on n'était pas venu là pour ça et il y a quand même de la déception de ne pas avoir remporté cette course, c'est une évidence.
Deux marins touchés au cœur, c'est maintenant sur le Vendée Globe, Jérôme, que Jérémy Beyou tentera de prendre sa revanche l'année prochaine au Sable d'Olonne, fort de cette malheureuse expérience.
Fabrice Rigobert avec Eric Audra à Salvador de Bahia et ça donne effectivement envie déjà en vue de ce Vendée Globe.
Allez, c'est du sport, de l'e-sport. Des milliers de spectateurs étaient à Bercy cet après-midi pour assister à une victoire chinoise. Les Européens n'ont pas réussi à décrocher le titre de champion du monde de jeux vidéo de League of Legends.
C'était l'événement effectivement pour cette première en France de ce que l'on peut considérer comme le tournoi le plus important en matière de jeux vidéo. Des fans qui ont vécu au rythme des attaques sur grand écran et tout ça sous vos yeux, Jérôme Cadet.
L'ambiance des grands jours à Bercy, 17 000 spectateurs en tribune, 25 ans de moyenne d'âge. Certains sont déguisés, tous ont les yeux rivés sur les écrans géants pour suivre le jeu. Arnaud, venu d'Alsace, l'a découvert il y a quelques mois.
Je viens d'apprendre le jeu, c'est ma compagne qui m'a initié à ce jeu-là. J'adore, moi qui suis fan de sport, de foot en général, etc. Je pense que le e-sport a sa place, en tout cas dans le sport en général.
D'habitude, ces joueurs suivent les matchs devant leurs écrans, chez eux. Aujourd'hui, ils sont réunis et ça change tout pour Antoine en terminale à Beauvais.
C'est clairement, on sent qu'on est passé à jouer à ce jeu, on sent qu'il y a une communauté qui est très civilisée. On sent qu'on est un groupe en fait. Là, on peut voir qu'on est tous réunis, rassemblés.
Une communauté mondiale. Sur scène, les joueurs de League of Legends sont slovènes, polonais, coréens, mais les meilleurs viennent de
China.
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 Les Chinois, vainqueurs sans appel des Européens, 3-0. Peu importe, pour Nicolas Besombe, vice-président de l'Association française d'e-sport, l'événement va aider la pratique.
Ça permet en tout cas de la rendre de plus en plus visible, de permettre sa popularisation, de déconstruire certaines idées reçues. Le territoire français est une terre d'accueil de grands événements e-sportifs internationaux.
Avec l'objectif désormais de créer des clubs d'e-sport un peu partout en France.
Et il va falloir donc s'y faire pour les prochaines années.
Pour terminer, Jérôme, il y a 30 ans, l'Allemagne de l'Est s'effondrait, on en a parlé tout ce week-end, en même temps que le mur de Berlin se fissurait. Les commémorations se sont achevées ce week-end dans la capitale allemande.
L'occasion pour nous d'évoquer ce soir ce sport est-allemand brillant sous l'ère communiste et pour cause. Un système d'état de dopage avait été mis en place. Il concernait 10 000 athlètes et de cette époque, il reste, figurez-vous, 3 records du monde détenus par des athlètes de l'ex-RDA et ils sont toujours valables aujourd'hui, dont celui du disque féminin depuis 1980. Avec un G à 76,80 m pour Gabriele Reinsch, record qui semble aujourd'hui imbattable. Mélina Robert-Bichon est vice-championne olympique de la discipline et malgré les soupçons autour de ce record, eh bien, elle est plutôt résignée.
Cette athlète-là n'a jamais été contrôlée positive sur une compétition, donc on ne peut pas officiellement dire qu'elle a été dopée, mais... Voilà, on sait que le système qui était mis en place à ce moment-là, autour notamment des athlètes de l'Allemagne de l'Est, le dopage faisait partie de ce système-là et que c'était leur système d'entraînement était aussi basé là-dessus. Donc on a assez peu de doutes, mais en même temps, officiellement, c'est toujours le record du monde. Moi, je l'ai intégré, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un moment où ça vous révolte un petit peu parce que du coup... On a l'impression de ne pas être dans la même cour, on va dire. J'ai appris à vivre avec, on va dire.
Mélina, Robert, Michaud, au micro de Christophe Vincent. Hier, lors du match de foot entre le Hertha Berlin et Leipzig, un mur a été érigé sur la pelouse avec cette inscription « Ensemble contre les murs, ensemble pour Berlin ». Autre belle image de ce week-end de sport.
Dont vous nous avez fait un résumé parfait. Merci Jérôme Val pour ce journal des sports.